Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Classé 0 à 17 ans, tu ne te voyais même pas dans le top 100, mais ça t'a pas empêché d'exploser par la suite. Tu as d'abord passé ton bac S. 3 ans plus tard, tu étais au 3e tour de WIM et battais ton premier top 10, gagnais 4 titres. Lyon en 2000, en battant Rafter en finale. Ton père s'est d'ailleurs rasé la moustache après ça. Tu vois, j'en ai des anecdotes.
J'ai été 32, puis ouais. 15-4, puis 15-2, 5-6, puis 3-6, puis 0, puis moins 15, puis remis à moins 30. J'étais numéro 33 français. Et l'année d'après, numéro 3 français. Voilà. Je suis passé de ce rythme-là, en fait, à du jour au lendemain, j'ai eu mon bac. C'était un point de départ. À partir de ce jour-là, je me suis mis à jouer 2 fois par jour.
Quand tu te revois aujourd'hui avec le look de l'époque, les lunettes aux clés, le bandana et tout, tu te trouves comment ?
Pendant des semaines, et je suis arrivé, c'est vrai, début 2001, jamais été aussi fort physiquement qu'à cette époque-là, parce que j'avais tout, en fait. J'avais la vitesse, parce que j'étais encore très jeune, et j'avais aussi la vitesse, j'avais l'endurance, j'avais, au niveau plus général, acquis de l'expérience en grand chelem contre des top 10. Voilà, je m'étais déjà frotté à certains grands joueurs sur des grands centraux. Donc voilà, je suis arrivé à l'Open d'Australie avec énormément d'objectifs et de détermination. Federer, à l'époque, c'est pas Federer, en fait, quoi. C'est juste un joueur qui est prometteur, mais qui a encore rien gagné. Et c'était logique que je le batte parce que j'étais meilleur que lui. J'étais vraiment hors de moi, en fait, à la fin de cette partie. Peut-être c'est la seule fois même de ma carrière où c'est arrivé. On parle de striptease. Oui, c'est vrai que j'ai tout balancé. J'ai balancé mes chaussures. Même, j'avais même plus de chaussures pour le tour d'après. J'ai dû aller en trouver d'autres, en acheter.
La finale, t'es tendu le soir, la veille?
Là, ce qui va se passer, c'est que je vais donc faire un speech devant des millions de personnes en anglais. Donc, mais comment je vais faire, en fait? J'étais en pleine confiance et je me disais, aujourd'hui, je vais peut-être gagner un grand chelem.
Voilà. Je le disais pendant la partie, tu disais, putain, il est monstrueux, cet enfoiré.
J'aurais dû, bien sûr. J'aurais dû être un petit peu plus conscient que Agassi en finale d'un grand chelem, c'est pas Agassi en demi-finale de Lyon ou au deuxième tour de l'US Open, quoi.
Est-ce que tu as pu prendre un peu le boulard parfois à cette époque-là?
Oui. Et oui, bien sûr, quand on a eu un si grand capitaine pendant 10 ans, c'est extrêmement inspirant. Et même sous mon capitanage, j'étais toujours connecté avec Guy et parfois justement à l'appeler, à lui demander des conseils ou simplement juste à lui parler parce que ça me faisait du bien et lui juste à écouter parce que je savais que ce que je vivais quand c'était un petit peu moins facile, lui avait pu le vivre aussi et je savais qu'il me comprenait et je pouvais pas forcément parler de ça à énormément de personnes. Donc,
est-ce que ça a été la plus grosse fiesta que t'es faite sur le circuit après ça?
C'est ouais, de ma vie, je pense.
Ah ouais.
C'est de ma vie. Mais non, mais c'est en fait, c'est fabuleux. On sait même pas comment ça va se passer. Bon, on est en Australie, on va sortir. Ouais, on est les joueurs, le staff, on est un certain nombre, mais on va dans une boîte de nuit et on va être accueillis comment? À faire la fête, à faire sauter les bouchons par les Australiens qui forcément à Melbourne, ils vont être déçus. Et en fait, pas du tout, en fait.
Et à chaque fois que je remettais la cassette, j'espérais que cette putain de volée, tu la mettes pas en contre-pied, mais dans le quartier.
Après chaque victoire, on va aller. Il avait repéré un magasin où il vendait du bon vin. Et après chaque victoire, on allait acheter une bonne bouteille qu'on partageait. On s'est fait une photo avec toutes les bouteilles qu'on avait bu pendant la quinzaine. Il y en avait pas mal, peut-être un peu plus qu'une par match gagné. Parce que je me disais, mais franchement, toi Arnaud, je pense que t'es quelqu'un plutôt sain. Mais si jamais tu vivais la même chose que ce qu'il vit lui, est-ce que toi t'aurais traversé le lobby? Ou est-ce que simplement tu te serais contenté de faire un petit geste de la main ou un petit geste de la tête? Je connais la réponse. Rafael Nadal est extraordinaire. Il est exceptionnel de simplicité. Et puis Roger aussi, c'est quelqu'un de super. Et c'est marrant parce que bon, ça c'est un petit peu maintenant, mais c'est un mec qui fait toujours l'idiot, l'imbécile. Et c'est sans doute toujours le cas aujourd'hui. J'en suis persuadé dans les vestiaires des tournois. Un vrai gamin, quoi. Un vrai gamin. Et puis après d'un coup, tac, transformation. Et on le voit. on le voit arriver sur le court 3 minutes après. C'est aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé. J'ai peut-être un peu moins d'anecdotes avec Djokovic, sauf que c'est le je suis sa première victoire sur le circuit.